Dernière partie de la Grande Table, Caroline Brouet.
Merci Antoine, merci. Nous retrouvons en duplex de Lyon, où il enseigne la philosophie à l'Université Lyon 3, notre invité, Tristan Garcia, bonjour.
Bonjour.
Écrivain, on vous doit 7, Faber, La meilleure part des hommes, mais aussi essayiste, plusieurs essais déjà à votre actif, Forme et objet, un traité des choses, ou encore Nous, animaux et humains. Et puis ce dernier essai dont on va parler aujourd'hui, La vie intense, une obsession moderne qui est apparue aux éditions Autrement. Autour de la table, puisque vous ne les voyez pas, Tristan Garcia, vous vous retrouvez comme nos auditeurs. Je présente donc Antoine Mercier et Frédéric Worms qui nous a rejoint. Bonjour à vous.
Bonjour Caroline, bonjour
Frédéric Worms est professeur de philosophie à l'École Normale Supérieure à Paris, l'École Normale Supérieure qui organise une nuit des sciences et des lettres le 3 juin prochain, une nuit qui promet d'être intense.
Intense, j'allais le dire.
Racontez-nous, Tristan Garcia, peut-être comme un romancier que vous êtes par ailleurs, comment vous en êtes venu à vous intéresser à ce concept d'intensité ?
Ce qui m'a intéressé dans ce concept, c'est au fond, c'est deux choses. D'abord, c'est un intérêt pour le fait qu'il soit partagé par des camps ennemis. Ça peut paraître étrange, mais j'ai toujours eu le sentiment que intensité, ou l'adjectif intense, avait été très tôt un des termes clés, disons, d'une transformation assez bien connue et documentée du capitalisme à la fin du 19e siècle, en devenant un capitalisme de loisirs, de divertissement. Et intense est très tôt un terme qui est utilisé pour la promotion, pour la publicité, par exemple des parcs de loisirs aux États-Unis, qui est utilisé pour les Nickelodeon, hein, qui sont les ancêtres du cinéma. Et d'une manière générale, il suffit de regarder très rapidement autour de soi, on sait très bien qu'intensité ou intense est un des maîtres mots du discours publicitaire. Dès qu'il s'agit de vendre quelque chose, une sensation, une perception par exemple, ce que vend en général le discours publicitaire, c'est son augmentation, son intensification. Du chocolat intense, ou un alcool intense, etc. Donc j'ai toujours été fasciné par le fait que d'une part, ça m'a semblé être le maître mot du discours du capitalisme tardif, et d'autre part, ça a toujours été aussi, à partir du XVIIIe siècle en tout cas, le discours disons la contre-valeur de ceux qui s'opposaient à la société libérale, même avant ça à la société rationalisée, à la société de la quantification, de la marchandisation. C'est un des maîtres mots de la poésie du XIXe siècle, c'est un des maîtres mots de Rimbaud, La vie intense. Ça sera un des maîtres mots de toutes les avant-gardes qui vont s'opposer à la bourgeoisie au début du XXe siècle, des surréalistes jusqu'aux lettristes. Donc ce qui m'intéressait d'abord, c'est l'idée qu'il y avait un mot, une valeur, un peu difficile à définir et pourtant très intuitive, qui semblait être, même si elle avait un sens différent, commune à tous les camps.
Une histoire, vous l'inscrivez dans l'histoire, Tristan Garcia, mais aussi une valeur cardinale de notre société actuelle, plus même que la société moderne. C'est aussi un air du temps peut-être qui vous a intéressé, puisque vous dites que nous sommes aujourd'hui, pour le coup, omnubilés par cette quête d'intensité.
Oui, c'est devenu un des termes de la société libérale sous une... Alors, j'essaye dans le livre, au fond, de faire une petite généalogie du terme et de la manière dont il est devenu une norme, ou en tout cas une exigence, qui est reliée à des choses là aussi qui sont assez documentées aujourd'hui sur l'exigence de performance à l'égard des individus du monde libéral et généralement l'effondrement qui s'ensuit chez beaucoup d'individus. Il y a beaucoup de pathologies d'effondrement intérieur suite à l'exigence d'intensification de la performance personnelle, professionnelle, des performances sexuelles, etc. Et ce qui m'a intéressé, c'est de remonter un peu le cours de cette valeur pour retrouver sous la norme ce qui avait été d'abord une promesse, et à mon sens une sorte de promesse magique de la raison au début du XVIIIe siècle.
Frédéric Worms.
Oui, d'abord merci beaucoup de m'inviter à participer à cette discussion. Je trouve que le livre de Tristan Garcia est tout à fait important et qu'il faut le prendre très au sérieux parce que, au fond, ce que dit ce livre, ce qui est dit dans ce livre, c'est que l'intensité, quand elle est prise comme une valeur en elle-même, devient à la fois vide et dangereuse. C'est paradoxal, mais elle n'a plus de contenu, puisque c'est l'intensité en elle-même, et c'est comme ça qu'elle devient dangereuse, puisqu'en étant recherchée pour elle-même, elle devient finalement destructrice. Et ça, je trouve que c'est extrêmement important, parce qu'il y a en effet, comme Tristan Garcia vient de le rappeler, cette rhétorique de l'intensité, cette surintensification de l'intensité dans laquelle on est pris, et parce que, précisément, elle se coupe des contenus. Et je trouve que c'est extrêmement important d'y revenir, de la critiquer, pour montrer, au fond, moi, ce serait ma position plutôt qu'il y a, ça dépend des contenus, il y a des intensités destructrices et des intensités créatrices et il faut choisir. Et l'intensité pour elle-même va nous pousser plutôt vers la destruction, peut-être
les djihadistes, allusion,
les djihadistes, etc. Et moi, ce qui me frappe, moi, la question que j'aurais envie de poser à Tristan Garcia, c'est au fond, qu'est-ce qu'il faut opposer à ce risque? Est-ce que c'est le contraire de l'intensité, c'est-à-dire justement une raison, une pensée qui neutralise, qui égalise? C'est un peu la thèse du livre, c'est-à-dire critiquer l'intensité pour revenir à une, il me semble, à la fin du livre, à une pensée qui, pour qui tout est égal parce qu'elle est objective, elle est scientifique.
Oui, mais sans que la vie, quand même, soit atteinte. Il faut le souligner dans le livre. Il y a un équilibre.
À la fin, il y a un équilibre entre vie et pensée. Mais c'est ça la solution de Tristan Garcia. Alors, moi, ce que j'aurais envie de discuter, c'est de dire, au fond, est-ce que c'est pas une manière, cette opposition vie intense et pensée égale, est-ce que c'est pas une manière de quand même accepter la neutralisation de l'intensité, de dire qu'elle est neutre? Moi, j'aurais plutôt envie de dire, il y a des intensités justement positives et négatives, et il faut réapprendre à les distinguer. Et ne pas sacrifier les intensités créatrices, amoureuses, vitales, positives, contre les intensités, pour les opposer aux, continuer à les opposer aux intensités destructrices, mortifères, etc., et ne pas les sacrifier au nom d'une critique générale de l'intensité. Vous voyez ce que je veux dire? Soit on oppose l'intensité en général à la pensée, soit on revient à une distinction entre les intensités positives et négatives grâce à la pensée. Et c'est un débat, au fond, crucial aujourd'hui, parce que qu'est-ce qu'on va opposer à l'intensité destructrice? Est-ce que c'est la raison, la sagesse en tant que rationnelle, ou bien est-ce que c'est aussi un élan vers autre chose?
Peut-être avant de répondre à cette question fondamentale qu'a posée Frédéric Worms, Tristan Garcia, pouvez-vous dire un mot quand même de cette lassitude de l'homme intense, de cette ambivalence profonde, très séduisante, et l'intensité de nos vies, cette quête d'intensité, mais en même temps c'est un piège en effet, et recherchée pour elle-même, comme l'a très bien dit Frédéric Worms, elle devient destructrice, elle se vide de son sens. C'est une partie importante du livre qu'il me semble faut développer un tout petit peu avant de répondre à la question de Frédéric Worms.
Oui, j'essaye de définir quelque chose qui est assez simple à comprendre, qui est à mon sens même une sorte de logique un peu idiote dans le sentiment humain. C'est pas une logique de l'intelligence, qui est l'effet de routine. L'effet de routine, il a toujours été très bien connu par tous ceux qui ont expérimenté des intensités vitales. C'est l'ennemi principal des libertins. Et le libertin, dans le livre, c'est pas très original, j'en dresse un portrait qui en fait un des premiers héros modernes, un des premiers hommes intenses, une sorte d'avant-garde de l'homme intense. Et le libertin comprend très vite la question de l'effet de routine. Qui est, alors en effet, Frédéric Worms a raison, on peut toujours lutter en essayant de qualifier l'intensité. Mais il y a quelque chose, il y a une sorte de logique formelle, un peu vide, un peu idiote, au fond de tout sentiment d'intensité et de variation, qui est que, à mesure qu'on soutient une intensité de vie à travers le temps, même si on peut essayer de la qualifier, et si on peut essayer de lutter intelligemment, c'est une porte de sortie toujours, pour soutenir des intensités de vie, cette intensité finit par se soumettre à un effet de routine qui est que, précisément pour être soutenue, il faut qu'elle se répète, et se répétant, elle s'amoindrit. Et c'est une logique qui hante, je crois, tous ceux qui ont été fascinés par l'intensité dès le XVIIIe siècle, les libertins, les poètes poètes de la deuxième moitié du 19e, les romantiques en général, mais aussi j'en fais la troisième figure de héros de l'intensité, disons, après le libertin qui est plutôt choisi dans le milieu aristocratique européen du 18e siècle, après le romantique plutôt lié à un milieu bourgeois au 19e siècle, une figure beaucoup plus démocratique qui est celle de l'adolescent rebelle et révolté, et notamment du rocker au XXe siècle, et qui va connaître aussi cette question de l'usure, de l'érosion par l'effet de routine. La solution étant, de ce fait, généralement destructrice, vivre vite, souvient de cette phrase empruntée à Neil Young, je crois que Kurt Cobain avait mis qu'il avait laissé avant de se suicider, mieux vaut flamber d'un coup que de se rouiller lentement.
Oui, j'avais la phrase de Mussolini, il vaut mieux vivre un jour comme un lion que 100 ans comme un mouton. Donc...
Oui, voilà, il y a plein de variations comme ça.
Ça revient à peu près à la même idée. Peut-être
de réactions souvent destructrices face à l'effet de routine.
On comprend bien l'aspect négatif. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous dire, pour bien clarifier la question, quelle serait selon vous la bonne intensité, la bonne manière de vivre de manière intense, au sens, malgré tout, cet adjectif, ce terme a un côté, un versant positif, j'imagine.
Alors je crois, au fond, j'essaye de défendre dans le livre que ma stratégie consiste à ne pas opposer à des mauvaises intensités une bonne intensité. Donc j'essaye de ne pas tenir un discours moral de ce point de vue-là, mais de comprendre une logique, une logique éthique, qui est celle de l'intensité vitale. Et le livre est une manière de créer un petit dispositif pour montrer qu'au fond, si on fait partie de ceux qui tiennent à l'idée d'intensité vitale, c'est-à-dire si on continue de penser que le sens profond d'une vie est de soutenir son intensité, le livre essaye de montrer qu'il faut être rusé, il faut être bon stratège et qu'au fond, peut-être, toute une part de la modernité n'a pas été suffisamment stratège. Elle a épuisé, elle a absolutisé, elle a trop affirmé cette valeur et en l'affirmant, ça a été contre-productif. Elle l'a usé, elle l'a détruit. Et donc, le livre a abouti à une situation paradoxale où l'intensité devient le nom d'une valeur qui, si on l'affirme, finit par se nier, mais si on la nie, elle n'est pas affirmée pour autant. Et le but du livre est de montrer que si on tient à cette valeur, au fond, la meilleure stratégie éthique consiste à toujours lui opposer quelque chose, à toujours résister. Le livre finit sur une figure possible de cette résistance, qui est la résistance de la pensée à la vie, mais aussi inversement la résistance de la vie à la pensée. C'est l'idée au fond du barrage, c'est-à-dire, puisqu'on s'est très tôt représenté l'intensité comme l'intensité du courant, avec la métaphore électrique, mais qui était aussi une métaphore hydrologique, l'intensité c'est du flux, il y a toujours les métaphores du flux ou du flot. Pour soutenir l'intensité, il faut être capable de lui opposer quelque chose. Il faut que quelque chose puisse faire barrage pour la soutenir à travers le temps. Et au fond, le livre est une sorte de bilan mélancolique d'une promesse magique de la modernité, qui est l'intensification absolue de la vie, en montrant que il y a dans cette promesse quelque chose qui ne pouvait pas être tenu, parce que cette intensification absolue, elle aboutit à son contraire. Et le livre essaye de produire un dispositif, un petit dispositif stratégique, de stratégie éthique, en disant, voilà, maintenant, peut-être qu'il va falloir plutôt concevoir des formes de ruse, de stratégie fine, pour opposer quelque chose aux intensités, pour pouvoir les soutenir. C'est-à-dire, il faut y résister, non pas les détruire, non pas les annihiler, non pas les refuser, mais être capable d'opposer quelque chose, d'opposer du non-intense aux intensités du corps, aux intensités du désir, aux intensités des perceptions, etc.
France Culture, La Grande Table, Caroline Brouet.
Avec notre invité aujourd'hui, Tristan Garcia, autour de son livre « La vie intense, une obsession moderne » et autour de la table pour dialoguer avec Tristan Garcia, le professeur de philosophie Frédéric Worms.
Oui. Oui, merci de cette discussion. Je la reprendrai là où elle s'est arrêtée, au point où Tristan Garcia l'avait reprise sur ce risque de routine qui menace, paradoxalement, l'amour de l'intensité pour elle-même. Et c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire, si on recherche dans l'amour, justement, non pas l'amour lui-même, mais l'intensité comme telle, on va toujours trouver la même figure, c'est la figure de Don Juan, finalement, mille lettrés, mille et trois femmes, et donc toujours la même déception, au fond, puisque l'intensité va finir par retomber. Et donc, parce qu'on ne recherche pas, l'intensité de l'amour, mais l'amour de l'intensité, je dirais. Donc là, c'est vrai qu'il y a un retournement qui est diabolique, en quelque sorte, redoutable. Mais encore une fois, je me demande ce qu'il faut lui opposer, parce que c'est vrai que on peut lui opposer la stratégie, comme ça, de ce livre et de Tristan Garcia et de son œuvre d'ailleurs, le concept, la pensée. Mais je me demande si la vie en elle-même n'oppose déjà pas autre chose à ce risque. c'est-à-dire l'intensité négative, justement, comme disait Antoine Mercier aussi tout à l'heure. Par exemple, nous savons bien que ce qui s'oppose aussi à l'intensité de l'amour, c'est l'intensité de la perte, c'est l'intensité du deuil, c'est l'intensité des négatifs, de la dispute même. Et que ce qui peut nourrir l'intensité d'un amour, c'est aussi qu'il est creusé par du négatif. Et pas seulement va devoir se répéter chaque matin comme extase, un coup de foudre tous les matins, c'est pas garanti sur facture, on est bien d'accord, mais néanmoins, après une petite dispute, quand on retrouve le sentiment du positif, je trouve quand même aussi qu'il y a, au fond, cette intensité négative qui vient toujours redonner du relief à l'intensité positive. À condition, c'est peut-être ça, effectivement... Mais... Pardon, non, je vous ai interrompu. À condition qu'on ne cherche pas l'intensité pour elle-même, mais qu'on soit sensible à ces polarités, et surtout que la pensée serve à les distinguer, à assumer justement, non pas tomber dans une sorte de nihilisme de l'intensité qui se vaut partout. À ce moment-là, effectivement, on peut le trouver dans le suicide aussi bien que dans le coup de foudre, dans la destruction des œuvres d'art comme dans l'œuvre d'art. Il y a autant de jouissance à faire un auto-da-fé qu'à écrire un livre, en un sens, dans la pure jouissance. Mais elles sont radicalement opposées. Donc il faut que la pensée serve, à mon avis, plutôt à retrouver des critères de distinction entre les intensités. La pensée est nécessaire, mais pas non plus en elle-même. Et évidemment, dans ce travail, ça aide nos vies, parce que nos vies sont tout le temps menacées par l'uniformité, la banalité, cette sorte de hantise de la vie bourgeoise uniforme qui motive toujours la recherche de l'intensité pour elle-même et que le livre décrit parfaitement bien. Et donc le rôle de la pensée, c'est de remettre aussi par la distinction des justifications à notre sentiment qui est que tout ne se vaut pas, qu'avoir de la fièvre à cause d'un virus ou à cause d'une passion amoureuse, c'est quand même pas pareil. Donc au fond... J'aurais quand même tendance à opposer une stratégie éthique à une autre, c'est-à-dire, enfin, ou plutôt à les concilier, c'est-à-dire à passer par la pensée, mais pour retrouver les polarités réelles, y compris politiques. Et à chaque fois, c'est la ligne de crête, l'intensité aussi d'une révolution, je dirais. Est-ce qu'elle est en elle-même, ou est-ce qu'elle est aussi pour lutter contre des tyrannies et créer quelque chose qui durera, parce qu'il faut aussi que ça dure, et que ça dure positivement contre le... Voilà. Donc c'est vrai que c'est un sujet fondamental, et qu'il y a plusieurs stratégies, et qu'il faut lutter contre ce risque commun.
Tristan Garcia.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Frédéric Vance.
Est-ce qu'il a la même stratégie que vous ? Est-ce que c'est la même stratégie ? Parce qu'on n'a pas exactement compris.
Non, parce qu'elle répond... Elle répond à un autre, au fond, à un autre danger, je crois, ce qu'évoque Frédéric Worms. C'est le risque d'uniformisation des intensités et une sorte de formalisation, c'est-à-dire que l'intensité se vide de son contenu, se vide de sa détermination, elle est déqualifiée, au fond. Et là, j'entends tout à fait ce qu'il dit. Au fond, peut-être, ce qui m'intéresse dans le livre est parfois légèrement différent, parce que ce qui m'intéresse, c'est à la fois l'effet de routine dont j'ai parlé, mais aussi un effet moderne qui est, au fond, la rationalisation, la quantification des intensités. Je vais prendre un exemple très contemporain, c'est tout ce qu'on appelle la future, peut-être, économie cognitive, et l'usage des données, des data, qui seraient récoltées sur des individus à partir, par exemple, de bracelets connectés. Là, on voit que le matériau direct de cette future économie, enfin, de ces données, ce sont des intensités physiologiques. C'est-à-dire, c'est être capable de capter, de mesurer, de chiffrer, de quantifier, ensuite de produire des statistiques sur du pouls, sur des pics de stress, sur des variations hormonales, etc. Et ça signifie, ce qui est très important pour moi dans le livre, ça signifie poursuivre un mouvement de rationalisation qui dépossède le sujet d'une forme de connaissance supérieure de l'intensité de son sentiment. C'est-à-dire que là, on a une rationalisation qui va se greffer directement sur le corps et où on va avoir des outils qui vont mieux connaître que le sujet lui-même, au fond, les intensités de sa vie, qui vont mieux connaître les intensités de son sommeil, qui vont mieux connaître les moments où son cœur s'emballe, qui vont mieux connaître même les raisons pour lesquelles fluctue l'intensité de ses sensations. Et donc, ce qui m'intéresse dans le livre, c'est de voir de quelle manière intensité a signifié aussi, à partir du XVIIIe siècle et déjà un petit peu avant, à partir du mouvement de rationalisation de la modernité, a signifié une sorte de valeur refuge qui permettait de construire, disons, la citadelle ou la forteresse de la subjectivité. L'intensité, c'était censé désigner, c'était presque une sorte de fétiche, toujours, de... la mesure de ce qui n'avait pas de mesure, de la quantité de ce qui n'était pas quantifiable, de l'évaluation de ce qui avait une valeur inestimable, etc. Et ce faisant, ça disait, voilà, il y a quelque chose dont seul le sujet est dépositaire, que le sujet connaît mieux que n'importe qui d'autre, et que n'importe quel outil qui va pouvoir le mesurer ou l'observer, c'est quoi ? C'est peut-être pas directement ses sensations, mais c'est l'intensité de ses sensations ou de son sentiment, sentiment intérieur.
On a compris notamment que cette obsession moderne, puisque c'est le sous-titre du livre de la vie intense, était fortement critiquée dans votre livre, c'était même le centre de votre argumentation, mais vous disiez tout à l'heure qu'il fallait donc, si on prend l'autre versant qui est peut-être un peu moins clair, opposer du non-intense. Alors qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Encore une fois, sur cette question de la stratégie éthique, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, si c'est possible concrètement, d'opposer du non-intense à cette frénésie d'intensité ?
Tristan Garcia.
Très rapidement, à la fin du livre... Alors, d'abord, il faut préciser, à mon sens, le livre est construit aussi comme un appel. Hein. J'ai conçu une sorte de petite chaîne de différents livres. Il y a un livre plus politique qui sort en septembre, qui s'appelle « Nous », puis il y aura un livre plus métaphysique qui sortira dans la foulée. Donc, le livre a aussi une fin ouverte. Et cette fin, en grande partie ouverte, est fondée sur une sorte d'hypothèse de travail qui compte véritablement pour moi, suivant laquelle on devrait pouvoir redéfinir la pensée comme la part d'un organisme vivant qui n'a pas pour valeur des intensités, qui ne vise pas l'intensité, qui vise le ni plus ni moins. En essayant d'ancrer la pensée, de ne pas être idéaliste, donc d'ancrer la pensée dans des organismes vivants, mais d'en faire la partie d'un organisme vivant.
Parce qu'elles n'y sont pas, Tristan Garcia ? Je ne comprends pas comment vous pouvez réancrer de la pensée dans un organisme vivant, sinon en considérant que jusqu'à présent la pensée était hors des organismes vivants. Or, il me semble que pensée et vie, pensée et organisme vivant sont intimement liés.
C'est pour ne pas paraître idéaliste, si vous voulez. C'est pour ne pas paraître séparer totalement la pensée, la désincarner, la désincorporer, la sortir du corps. Mais en la mettant dans le corps, en faisant la fonction d'un organisme, d'un organisme vivant, capable d'accéder à du ni plus ni moins. C'est-à-dire capable d'accéder à une valeur autre que l'intensité, que la variation, que la modulation, que l'oscillation, capable d'accéder à une forme d'égalité ou d'égalisation, la pensée étant la faculté d'un organisme vivant à concevoir que quelque chose existe ni plus ni moins.
C'est un éloge de la modération, ce que vous nous proposez ou...
Pas de la modération.
Ou un aplanissement. Il n'y a plus de haut et de bas. Il y a
peut-être que le professeur Worms va nous éclaircir.
Frédéric Worms.
Oui, non, je ne sais pas si c'est la modération seulement, ce que dit Tristan Garcia, ça va plus loin encore. C'est-à-dire c'est une éloge de la neutralité, du détachement aussi, qui rejoint des formes de sagesse tout à fait profondes, à mon avis, qui sont d'ailleurs implicites à la fin du livre, c'est-à-dire se détacher des affects, au fond, aussi, accéder à une sorte d'état, je dirais presque d'indifférence vis-à-vis des intensités. Est-ce que c'est possible ?
Oui, mais c'est pas non plus de la sagesse.
Il y a sagesse, il me semble, dans le
Tristan
livre.
Tristan Garcia, juste une petite incise. Vous dites que c'est pas non plus de la sagesse que vous proposez.
Ce qui m'intéresse, c'est de définir la pensée de cette manière-là, en veillant à ce que la pensée ne s'impose pas à la vie. C'est-à-dire en veillant à ce qu'il n'y ait pas d'hégémonie par des disciplines d'incorporation, par exemple, des valeurs de la pensée qui viendraient s'imposer aux valeurs de la vie. C'est-à-dire que le but deviendrait, classiquement, comme beaucoup de disciplines de sagesse très, très traditionnelles, le but deviendrait d'imposer au corps des valeurs qui sont conçues par la pensée, qui sont des valeurs de simplicité, d'unité, d'éternalisation, d'égalisation, etc. Donc le but du livre, à la fin, est d'ouvrir vers la possibilité de maintenir un double régime, c'est-à-dire de reconnaître une valeur supérieure de la pensée, qui n'est pas l'intensité, une valeur supérieure de la vie, qui serait le fait de soutenir des intensités. Et capable de soutenir cette distinction.
C'est cette phrase, on ne se sent vraiment vivre qu'à l'épreuve d'une pensée qui résiste à la vie, et on ne se sent vraiment penser qu'à l'épreuve d'une vie qui résiste à la pensée. On va l'écrire, je pense, pour méditer cette phrase. Frédéric Vance, pardon, je vous ai interrompu.
Non, pas du tout. Moi, je pense effectivement, c'est tout à fait cohérent, mais j'aurais quand même tendance à penser à une vie qui résiste à la mort et une pensée qui la soutient contre cette tendance, puisqu'il y a aussi en nous une force qui résiste à la vie et qui n'est pas seulement la pensée. Malheureusement, s'il n'y avait que la pensée qui résistait à la vie, je pense qu'on ne serait pas dans cet état de guerre mutuelle et aussi de guerre intestine, chacun dans nos vies, justement, parce qu'on a aussi en nous, dans notre vie, une tendance qui va vers la mort. Et d'ailleurs, c'est une question qu'on pourrait poser aussi, c'est parce que, par exemple, dans au-delà du principe de plaisir, le texte où Freud a découvert en 1920 la pulsion de mort, il définit la pulsion de mort comme une volonté d'abandonner l'intensité. C'est-à-dire la vie est fatigante, dit Freud en gros, la vie demande un effort, une intensité justement, et il y a en nous une tendance contre cet effort et une tendance vers la mort qui est un état d'indifférence et au fond d'indifférenciation et de non-intensité. Et on peut avoir un peu peur de ce désir de non-intensité quand il tend vers justement la mort. Et j'aurais plutôt tendance à dire que ce qui résiste à la vie, c'est ça. Et que le rôle de la pensée, c'est de justement de quand même de choisir, au fond, pas de choisir un camp binaire. Faut pas être manichéen, la vie contre la mort seulement, le bien contre le mal et je ne sais quoi. Mais néanmoins, de comprendre que il y a quand même des tendances qui s'opposent, des choix qui font sens, et que la pensée est aussi en charge de cette différenciation-là. Pas forcément d'une indifférenciation, mais plutôt d'une différenciation.
D'un marquage des différences.
D'un marquage, et qui s'inscrit en effet dans les corps, et entre les corps, et dans la cité.
Tristan Garcia, sur cette proposition de Frédéric Worms.
Oui, c'est vrai que moi, je m'inscris pas tout à fait dans des traditions qui reconnaissent au fond de la pulsion de mort, ou même ça serait sans doute l'influence schopenhauerienne de les lectures schopenhauerienne de Freud.
On peut penser la vie sans la mort. Est-ce qu'on peut penser la vie sans la mort, même sans parler de pulsion de mort, mais juste sans son contraire?
Alors, ce qui me fait peur au fond, c'est pas le contraire de la vie, c'est la résurgence de promesses suite à l'épuisement de la promesse de l'absolutisation de l'intensification de la vie, espèce de retour de promesses qui, pour les modernes, avaient paru enterrées, abandonnées, qui sont des promesses précisément d'autre chose que l'intensification de la vie, qui sont les promesses du contraire de la vie. Et le livre se termine aussi sur une sorte de crainte de se trouver pris en tenaille entre l'épuisement de l'absolutisation de l'intensité et le retour, notamment de promesses religieuses, hein, de promesses de salut, qui sont des promesses d'autre chose que la vie. Au fond, quelque chose qui sous-tend le livre, qui est pas forcément clairement dit, parce que c'est très intuitif, c'est que la promesse, notamment la promesse sociale d'intensification de la vie, ça a été la promesse de plus de la même chose, et qu'elle est venue relever l'affaiblissement tendanciel de la société européenne, puis de la société occidentale, de sa capacité à promettre autre chose que la vie aux individus. Et quand la société ne s'est plus conçue comme en mesure de promettre autre chose aux individus que ce qu'ils avaient déjà, c'est-à-dire un corps, une vie, des affects, eh bien elle s'est mise à leur promettre plus de la même chose, plus de ça. Et le livre naît d'une angoisse, qui est le fait que si cette promesse, comme j'essaye d'en faire le diagnostic dans le livre, s'épuise ou s'efface, et la marque d'une sortie simplement par effacement des promesses modernes, alors ce qui ressurgit, ce sont les promesses bien plus anciennes, qui sont les promesses faites aux individus d'autre chose que ce qu'ils ont déjà, d'autre chose que la vie, et notamment, pas seulement d'autre chose que la vie, mais du contraire de la vie. Et donc aussi des promesses de transcendance, mais des promesses qui peuvent porter d'autres valeurs que la vie, et notamment la mort.
Tristan Garcia, comment faites-vous, vous ?
Ah, on attendait la suite de la...
Non, comment faites-vous, vous, pour vivre à la fois une vie sans tomber dans l'intensification, dans l'injonction de la vie intense, et en même temps en préservant cette pensée égale que vous appelez de vos voeux ? Est-ce que vous y arrivez ?
Vous
nous donnez quand même un peu un manuel de vie, là, donc...
sans en parler intimement, par exemple, j'ai toujours conçu le fait d'écrire des romans, enfin d'avoir deux régimes d'expression, le fait d'être romancier, d'écrire des romans, d'écrire des fictions, et par ailleurs d'écrire de la théorie, et pour moi une sorte d'expression du dispositif éthique dont j'ai parlé. J'ai toujours écrit des romans pour résister à ma pensée et à la propension de la pensée, précisément à donner des leçons à la vie et à généraliser, comme je le fais sans doute là, enfin comme le livre le fait à la fin. Et donc pour opposer quelque chose aux théories que j'échafaude, aux idées, à la pensée qui me travaille, j'ai toujours écrit de la fiction. Mais inversement, j'ai toujours essayé d'opposer à ma fiction, au roman ou à l'imagination que j'ai essayé de développer, j'ai toujours essayé de lui opposer des idées. Et donc, en tout cas pas nécessairement intimement, mais dans mon travail, l'intensité, pour moi, elle est toujours venue de l'organisation de cette petite schizophrénie personnelle. Et de toujours avoir cherché à ne pas donner raison, par exemple, à ma littérature ou à la littérature par la philosophie, à ne pas donner raison à la philosophie par la littérature, mais à lui opposer quelque chose du dehors, toujours.
Alors, Antoine Mercier.
Vous parlez beaucoup de l'électricité dans le livre, c'est le fil conducteur, si je puis dire, de l'ensemble du livre. Mais vous parlez assez peu, finalement, de la connexion nous moderne, de la capacité des personnes, justement, à vivre beaucoup plus intensément, parce qu'on vit en plusieurs endroits, on vit dans l'instant, précisément. C'est relativement discret dans votre livre. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a là, finalement, pour la promesse dont vous parliez, quelque chose qui pourrait la renouveler, en tout cas la perpétuer?
Il y a effectivement, d'ailleurs c'est un peu noté par un effet de symétrie dans le livre, il y a une autre promesse que la promesse métaphorique de l'électricité qui est apparue depuis au moins une cinquantaine d'années, qui est la promesse électronique. Or, ce qui m'a toujours intéressé, c'est le fait que la définition la plus simple qu'on peut donner de l'électronique, au fond, c'est de la transmission d'informations par de l'électricité, par un courant électrique à basse intensité. Puisque on n'a pas besoin, simplement par économie, on n'a pas besoin d'avoir une forte intensité électrique si on peut transmettre une information à basse intensité. Et ce que dit l'entrée dans un régime électronique de la société occidentale aussi, à mon sens, c'est l'abandon de la fascination pour cette figure, cette métaphore centrale de l'intensité dans la modernité qu'a été le courant électrique. Par exemple, pour prendre un exemple très, très concret et très net, on le voit très bien dans l'histoire des musiques populaires, enregistrées dans l'histoire de la pop. L'abandon de la fascination pour tous les fétiches de la musique électrique, par exemple pour la guitare électrique, qui était l'expression en général d'un corps sur scène, pensons à Hendrix, d'un corps qui suait, d'un corps énergique, d'un corps qui faisait passer son intensité vitale dans l'instrument, et ensuite l'instrument était amplifié, donc ça passait dans le courant électrique et ça sortait ensuite, évidemment, par les haut-parleurs. Tout ça a été remplacé petit à petit par une fascination pour la musique électronique. Dans la musique électronique, on a cette fois de l'information qui certes est transmise encore par du courant électrique, mais le courant électrique ne sert plus que de moyen, il n'est plus une fin, il ne fascine plus. L'électricité ne fascine plus quand elle n'est utilisée que comme moyen dans l'électronique. Et qu'est-ce qui se passe? On n'a plus du tout un corps suant, on n'a plus du tout l'énergie vitale de Jimi Hendrix, à la place on a Daft Punk, c'est-à-dire on a au contraire des casques qui masquent le visage. La plupart du temps les artistes de musique électronique sont dans la pénombre, sont des sujets qui évitent d'être des corps, pensons même à Kraftwerk, se présentent comme des robots, etc. Et on voit bien là la différence par la métaphore entre un régime électrique et un régime électronique. C'est un régime de fascination pour le courant électrique et pour l'intensité électrique, et un régime de fascination pour de l'information transmise à basse intensité.
Tristan Garcia, est-ce que Harper's Bazaar, que vous avez choisi pour terminer, répond à ce que vous venez de donner comme exemple? Est-ce qu'il se cache, par exemple, puisque c'est une adaptation pop d'un chant indien d'Amérique du Nord traditionnel, avec ce Guichi Taito? Est-ce qu'Harper's Bazaar, c'est ça? C'est ce que vous décrivez?
Oui, ça serait un petit requiem mélancolique pour l'idée d'intensité. C'est un chant indien traditionnel qui a été adapté, qui est devenu un standard de jazz. Et ce standard de jazz a été réadapté assez magnifiquement par ce petit groupe de pop des années 60 qui s'appelait Harper's Bazaar.
Et il célèbre
sur Harper's Bazaar
le flot de la vie,
le flot de l'eau et de la vie
et le sentiment d'être vivant. Merci beaucoup Tristan Garcia. La vie intense, une obsession moderne, c'est le titre de ce livre paru chez Autrement. Vous êtes à Lyon parce que vous y enseignez, mais vous serez aussi aux Assises internationales du roman organisées par la Villa Gilet jusqu'au 29 mai. Ces Assises internationales du roman sont à Lyon et dans sa région. Vous y serez demain à 15h à la médiathèque François Mitterrand de Saint-Priest pour une rencontre avec les lecteurs, et demain également à 19h pour une discussion discussion autour du thème justement dont vous avez commencé de parler sur les jeunes romanciers philosophes. Et cette rencontre sera aux Subsistances à Lyon. J'ajoute juste que la Villa Gilet connaît aujourd'hui de graves difficultés. Elle a lancé un appel à soutien qu'on peut signer sur le site change.org. La Nuit des Idées, ça sera le 3 juin, Frédéric Vamps. Nuit.ens.fr. Tout ça est sur notre site franceculture.fr à la page de la Grande Table. Merci à tous.
Merci beaucoup à vous.